Consuelo, livre 1, chapitre 8. Qu'as-tu donc à me regarder ainsi ? Lui dit Consuelo en le voyant entrer chez elle et la contempler d'un air étrange, sans lui dire un mot. On dirait que tu ne m'as jamais vue.
C'est la vérité, Consuelo, répondit-il.
Je ne t'ai jamais vue.
As-tu l'esprit égaré ?
Reprit-elle. Je ne sais pas ce que tu veux dire.
Mon Dieu, je le crois bien, s'écria Anzoletto.
J'ai une grande tache noire dans le cerveau, à travers laquelle je ne te vois pas.
Miséricorde, tu es malade, mon ami?
Non, chère fille, calme-toi, et tâchons de voir clair. Dis-moi, Consuelita, est-ce que tu me trouves beau?
Mais certainement, puisque je t'aime.
Et si tu ne m'aimais pas, comment me trouverais-tu?
Est-ce que je sais?
Quand tu regardes d'autres hommes que moi, sais-tu s'ils sont beaux ou laids?
Oui, mais je te trouve plus beau que les plus beaux.
Est-ce parce que je le suis ou parce que tu m'aimes?
Je crois bien que c'est l'un et l'autre. D'ailleurs, tout le monde dit que tu es beau, et tu le sais bien. Mais qu'est-ce que cela te fait?
Je veux savoir si tu m'aimerais quand même, je serais affreux.
Je ne m'en apercevrai peut-être pas.
Tu crois donc qu'on peut aimer une personne laide?
Pourquoi pas, puisque tu m'aimes.
Tu es donc laide, Consuelo? Vraiment, dis-moi, réponds-moi. Tu es donc laide?
On me l'a toujours dit. Est-ce que tu ne le vois pas?
Non, non. En vérité, je ne le vois pas.
En ce cas, je me trouve assez belle, et je suis bien contente.
Tiens, dans ce moment-ci, Consuelo, quand tu me regardes d'un air si bon, si naturel, si aimant, il me semble que tu es plus belle que la corille. Mais je voudrais savoir si c'est l'effet de mon illusion ou la vérité. Je connais ta physionomie. Je sais qu'elle est honnête et qu'elle me plaît, et que quand je suis en colère, elle me calme, que quand je suis triste, elle m'égaie, que quand je suis abattue, elle me ranime. Mais je ne connais pas ta figure. Ta figure, Consuelo, je ne peux pas savoir si elle est laide.
Mais qu'est-ce que cela te fait, encore une fois?
Il faut que je le sache. Dis-moi si un homme beau pourrait aimer une femme laide.
Tu aimais bien ma pauvre mère, qui n'était plus qu'un spectre, et moi je l'aimais tant.
Et la trouvais-tu laide?
Non. Et toi?
Je n'y songeais pas. Mais aimer d'amour, Consuelo, car enfin, je t'aime d'amour, n'est-ce pas? Je ne peux pas me passer de toi, je ne peux pas te quitter. C'est de l'amour que t'en semble.
Est-ce que cela pourrait être autre chose?
Cela pourrait être de l'amitié.
Oui, cela pourrait être de l'amitié.
Ici, Consuelo, surprise, s'arrêta et regarda attentivement Anzoletto. Et lui, tombant dans une rêverie mélancolique, se demanda positivement, pour la première fois, s'il avait de l'amour ou de l'amitié pour Consuelo. Si le calme de ses sens, si la chasteté qu'il observait facilement auprès d'elle, était le résultat du respect ou de l'indifférence. Pour la première fois, il regarda cette jeune fille avec les yeux d'un jeune homme, interrogeant, avec un esprit d'analyse qui n'était pas sans trouble, ce front, ses yeux, cette taille, et tous ces détails dont il n'avait jamais saisi qu'une sorte d'ensemble idéal et comme voilé dans sa pensée. Pour la première fois, Consuelo, interdite, se sentit troublée par le regard de son amie. Elle rougit, son cœur battit avec violence, et ses yeux se détournèrent, ne pouvant supporter ceux d'Anzoletto. Enfin, comme il gardait toujours le silence et qu'elle n'osait plus le rompre, une angoisse inexprimable s'empara d'elle,
De grosses larmes roulèrent sur ses joues. Et, cachant sa tête dans ses mains, « Oh, je vois bien, » dit-elle. « Tu viens me dire que tu ne veux plus de moi pour ton ami. »
« Non, non, je n'ai pas dit cela, je ne le dis pas !» s'écria Anzoletto, effrayé de ces larmes qu'il faisait couler pour la première fois.
Et, vivement ramené à son sentiment fraternel, il entoura Consuelo de ses bras. Mais, comme elle détournait son visage, au lieu de sa joue fraîche et calme, il baisa une épaule brûlante que cachait mal un fichu de grosses dentelles noires. Quand le premier éclair de la passion s'allume instantanément dans une organisation forte, restée chaste comme l'enfance au milieu du développement complet de la jeunesse, elle y porte un choc violent et presque douloureux.
« Je ne sais pas ce que j'ai, » dit Consuelo en s'arrachant des bras de son amie avec une sorte de crainte qu'elle n'avait jamais éprouvée.
« Mais je me sens bien mal. Il me semble que je vais mourir. »
« Ne meurs pas, » lui dit Anzoletto en la suivant et en la soutenant dans ses bras. « Tu es belle, Consuelo. Je suis sûre que tu es belle. »
En effet, Consuelo était belle en cet instant. Et quoique Anzoletto n'en fût pas certain au point de vue de l'art, il ne pouvait s'empêcher de le dire parce que son cœur le sentait vivement.
« Mais enfin, » dit Consuelo toute pâle et tout abattue en un instant. « Pourquoi donc tiens-tu aujourd'hui à me trouver belle ?»«
Ne voudrais-tu pas l'être, cher Consuelo ?»«
Oui, pour toi. »«
Et pour les autres ?»«
Peu m'importe. »«
Et si c'était une condition pour notre avenir ?»
Ici, Anzoletto, voyant l'inquiétude qu'il causait à son ami, lui rapporta naïvement ce qui s'était passé entre le comte et lui. Et quand il en vint à répéter les expressions peu flatteuses dont Giustiniani s'était servi en parlant d'elle, la bonne Consuelo, qui peu à peu s'était tranquillisée en croyant voir tout ce dont il s'agissait, partit d'un grand éclat de rire en achevant d'essuyer ses yeux humides.
« Eh bien, » lui dit Anzoletto, tout surpris de cette absence totale de vanité, « tu n'es pas plus émue, pas plus inquiète que cela. »
« Ah, je vois, Consuelina, vous êtes une petite coquette, vous savez que vous n'êtes pas laide. »«
Écoute, » lui dit-elle en souriant, « puisque tu prends de pareilles folies au sérieux, il faut que je te tranquillise un peu. Je n'ai jamais été coquette. N'étant pas belle, je ne veux pas être ridicule. Mais quant à être laide, je ne le suis plus. »«
Vraiment ? On te l'a dit ? Qui t'a dit cela, Consuelo ? »
D'abord ma mère, qui ne s'est jamais tourmentée de ma laideur. Je lui ai entendu dire souvent que cela se passerait, qu'elle avait été encore plus laide dans son enfance. Et beaucoup de personnes qui l'avaient connue m'ont dit qu'à 20 ans elle avait été la plus belle fille de Burgos. Tu sais bien que quand par hasard quelqu'un la regardait dans les cafés où elle chantait, on disait « Cette femme doit avoir été belle ».
« Vois-tu, mon pauvre ami, la beauté est comme cela quand on est pauvre. C'est un instant. On n'est pas belle encore, et puis bientôt on ne l'est plus. Je le serai peut-être, qui sait, si je peux ne pas me fatiguer trop, avoir du sommeil et ne pas trop souffrir de la faim. »
« Consuelo, nous ne nous quitterons jamais. Bientôt je serai riche et tu ne manqueras de rien. Tu pourras donc être belle à ton aise. »
À la bonne heure, que Dieu fasse le reste.
Mais tout cela ne conclut à rien pour le présent, et il s'agit de savoir si le comte te trouvera assez belle pour paraître au théâtre.
Maudit comte, pourvu qu'il ne fasse pas trop le difficile.
D'abord, tu n'es pas laide.
Non, je ne suis pas laide. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, le verrotier qui demeure ici en face dire à sa femme « Sais-tu que la Consuelo n'est pas vilaine? Elle a une belle taille, et quand elle rit, elle vous met tout le cœur en joie, et quand elle chante, elle paraît jolie. »
Et qu'est-ce que la femme du verrotier a répondu?
Elle a répondu, « Qu'est-ce que cela te fait, imbécile? Songe à ton ouvrage. Est-ce qu'un homme marié doit regarder les jeunes filles? »
Paraissait-elle fâchée?
Bien fâchée.
C'est bon signe. Elle sentait que son mari ne se trompait pas.
Et puis encore?
Et puis encore, la comtesse Mocenigo, qui me donne de l'ouvrage et qui s'est toujours intéressée à moi, a dit la semaine dernière au docteur Ancillo, qui était chez elle au moment où j'entrais. « Regardez donc, monsieur le docteur, comme cette Zitella a grandi et comme elle est devenue blanche et bien faite. »
Et qu'a répondu le docteur?
Il a répondu « C'est vrai, madame, par Bacchus, je ne l'aurais pas reconnue. Elle est de la nature des phlegmatiques qui blanchissent en prenant un peu d'embonpoint. Ce sera une belle fille, vous verrez cela. »
Et puis encore?
Et puis encore, la supérieure de Santa Chiara, qui me fait faire des broderies pour ses hôtels, et qui a dit à une de ses sœurs, « Tenez, voyez si ce que je vous disais n'est pas vrai. La Consuelo ressemble à notre Sainte Cécile. Toutes les fois que je fais ma prière devant cette image, je ne peux m'empêcher de penser à cette petite. Et alors je prie pour elle, afin qu'elle ne tombe pas dans le péché, et qu'elle ne chante jamais que pour l'Église. »
Et qu'a répondu la sœur?
La sœur a répondu, « C'est vrai, ma mère, c'est tout à fait vrai. » Et moi, j'ai été bien vite dans leur église, et j'ai regardé la Sainte Cécile, qui est d'un grand maître, et qui est belle, bien belle.
Et qui te ressemble?
Un peu.
Et tu ne m'as jamais dit cela?
Je n'y ai pas pensé.
Cher Consuelo, tu es donc belle.
Je ne crois pas, mais je ne suis plus si laide qu'on le disait. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne me le dit plus. Il est vrai que c'est peut-être parce qu'on s'imagine que cela me ferait de la peine à présent.
Voyons, Consuelina, regarde-moi bien. Tu as les plus beaux yeux du monde, d'abord.
Mais la bouche est grande, dit Consuelo en riant et en prenant un petit morceau de miroir cassé qui lui servait de psyché pour se regarder.
« Elle n'est pas petite, mais quelles belles dents !» reprit Anzoletto.
« Ce sont des perles fines, et tu les montres toutes quand tu ris. »
« En ce cas, tu me diras quelque chose qui me fasse rire quand nous serons devant le comte. »« Tu as des cheveux magnifiques, Consuelo. »«
Pour cela, oui. Veux-tu les voir ?»
Elle détacha ses épingles et laissa tomber jusqu'à terre un torrent de cheveux noirs où le soleil brilla comme dans une glace.
« Et tu as la poitrine large, la ceinture fine, les épaules.
Ah, bien belle, Consuelo.
Pourquoi me les caches-tu? Je ne demande à voir que ce qu'il faudra bien que tu montres au public. »
« J'ai le pied assez petit, » dit Consuelo pour détourner la conversation. Et elle montra un véritable petit pied andalou, beauté à peu près inconnue à Venise.
La main est charmante aussi, dit Anzoletto en baisant pour la première fois la main que jusque-là il avait serrée amicalement comme celle d'un camarade.
Laisse-moi voir tes bras.
Tu les as vus 100 fois, dit-elle en ôtant ses mitaines.
Non, je ne les avais jamais vus.
Dit Anzoletto que cet examen innocent et dangereux commençait à agiter singulièrement. Et il retomba dans le silence, couvant du regard cette jeune fille que chaque coup d'œil embellissait et transformait à ses yeux. Peut-être n'était-ce pas tout à fait qu'il eût été aveugle jusqu'alors. Car peut-être était-ce la première fois que Consuelo dépouillait, sans le savoir, cet air insouciant qu'une parfaite régularité de ligne peut seule faire accepter. En cet instant, ému encore d'une vive atteinte portée à son cœur, redevenue naïve et confiante, mais conservant un imperceptible embarras qui n'était pas l'éveil de la coquetterie, mais celui de la pudeur sentie et comprise, son teint avait une pâleur transparente, et ses yeux un éclat pur et serein qui la faisait ressembler certainement à la sainte Cécile des nonnes de Santa Chiara. Anzoletto n'en pouvait plus détacher ses yeux. Le soleil s'était couché. La nuit se faisait vite dans cette grande chambre éclairée d'une seule petite fenêtre. Et dans cette demi-teinte qui embellissait encore Consuelo, semblait nager autour d'elle un fluide d'insaisissable volupté.
Anzoletto eut un instant la pensée de s'abandonner au désir qui s'éveillait en lui avec une impétuosité toute nouvelle, et à cet entraînement se joignait par éclair une froide réflexion. Il songeait à expérimenter, par l'ardeur de ses transports, si la beauté de Consuelo aurait autant de puissance sur lui que celle des autres femmes réputées belles qu'il avait possédées. Mais il n'osa pas se livrer à ces tentations indignes de celles qui les inspiraient. Insensiblement, son émotion devint plus profonde, et la crainte d'en perdre les étranges délices lui fit désirer de la prolonger. Tout à coup, Consuelo, ne pouvant plus supporter son embarras, se leva, et faisant un effort sur elle-même pour revenir à leur enjouement, se mit à marcher dans la chambre en faisant de grands gestes de tragédie et en chantant d'une manière un peu outrée plusieurs phrases de drame lyrique, comme si elle fût entrée en scène. « Eh bien, c'est magnifique !» s'écria Anzoletto, ravi de surprise, en la voyant capable d'un charlatanisme qu'elle ne lui avait jamais montré. « Ce n'est pas magnifique !» dit Consuelo en se rasseyant. « Et j'espère que c'est pour rire que tu dis cela. » « Ce serait magnifique à la scène. Je t'assure qu'il n'y aurait rien de trop. Coria en crèverait de jalousie, car c'est tout aussi frappant que ce qu'elle fait dans les moments où on l'applaudit à tout rompre. » « Mon cher Anzoletto, répondit Consuelo, je ne voudrais pas que la Coria crevât de jalousie pour de semblables jongleries. Et si le public m'applaudissait parce que je sais la singer, je ne voudrais plus reparaître devant lui. » « Tu feras donc mieux encore !»« Je l'espère, ou bien je ne m'en mêlerai pas. »« Eh bien, comment feras-tu »«
Je n'en sais rien encore. »«
Essaie !»«
Non, car tout cela, c'est un rêve, et avant que l'on ait décidé si je suis laide ou non, il ne faut pas que nous fassions tant de beaux projets. Peut-être que nous sommes fous dans ce moment, et que, comme l'a dit monsieur le comte, la Consuelo est affreuse. »
Cette dernière hypothèse rendit à Anzoletto la force de s'en aller. Chapitre 9. À cette époque de sa vie, à peu près inconnue des biographes, un des meilleurs compositeurs de l'Italie et le plus grand professeur de chant du XVIIIe siècle, l'élève de Scarlatti, le maître de Haas, de Farinelli, de Caffarelli, de la Mingotti, de Salimbini, de Huber, dit le Porporino, de la Gabrielli, de la Molteni, en un mot, le père de la plus célèbre école de chant de son temps, Nicola Porpora, languissait obscurément à Venise, dans un état voisin de la misère et du désespoir. Il avait dirigé cependant naguère, dans cette même ville, le conservatoire de l'Ospedaletto, et cette période de sa vie avait été brillante. Il y avait écrit et fait chanter ses meilleurs opéras, ses plus belles cantates et ses principaux ouvrages de musique d'église. Appelé à Vienne en 1728, il y avait conquis, après quelques combats, la faveur de l'empereur Charles VI. Favorisé aussi à la cour de Saxe, Porpora avait été appelé ensuite à Londres, où il avait eu la gloire de rivaliser pendant 9 ou 10 ans avec Handel, le maître des maîtres, dont l'étoile pâlissait à cette époque. Mais le génie de ce dernier l'avait emporté enfin, et le Porpora, blessé dans son orgueil ainsi que maltraité dans sa fortune, était revenu à Venise reprendre sans bruit et non sans peine la direction d'un autre conservatoire. Il y écrivait encore des opéras, mais c'est avec peine qu'il les faisait représenter. Et le dernier, bien que composé à Venise, fut joué à Londres où il n'eut point de succès. Son génie avait reçu ses profondes atteintes, dont la fortune et la gloire eussent pu le relever. Mais l'ingratitude de Haas, de Farinelli et de Caffarelli, qui l'abandonnèrent de plus en plus, acheva de briser son cœur, d'aigrir son caractère et d'empoisonner sa vieillesse.
On sait qu'il est mort, misérable et désolé, dans sa 80e année, à Naples. À l'époque où le comte Giustiniani, prévoyant et désirant presque la défection de Corilla, cherchait à remplacer cette cantatrice, le Porpora était en proie à de violents accès d'humeur atrabilaire, et son dépit n'était pas toujours mal fondé. Car si l'on aimait et si l'on chantait à Venise la musique de Jomelli, de Lotti, de Carissimi, de Gasparini et d'autres excellents maîtres, on y prisait sans discernement la musique bouffe de Cocchi, d'Elbuini, de Salvatore Apollini et d'autres compositeurs plus ou moins indigènes dont le style commun et facile flattait le goût des esprits médiocres. Les opéras de Haas ne pouvaient plaire à son maître, justement irrité. Le respectable et malheureux Porpora, fermant son cœur et ses oreilles à la musique des modernes, cherchait donc à les écraser sous la gloire et l'autorité des anciens. Il étendait sa réprobation trop sévère jusque sur les gracieuses compositions de Galoppi et jusque sur les originales fantaisies de Giozzetto, le compositeur populaire de Venise. Enfin, il ne fallait plus lui parler que du père Martini, de Durante, de Monteverde, de Palestrina. J'ignore si Marcello et Leo trouvaient grâce devant lui. Ce fut donc froidement et tristement qu'il reçut les premières ouvertures du comte Giustiniani concernant son élève inconnu, la pauvre Consuelo, dont il désirait pourtant le bonheur et la gloire. Car il était trop expérimenté dans le professorat pour ne pas savoir tout ce qu'elle valait, tout ce qu'elle méritait. Mais à l'idée de voir profaner ce talent si pur et si fortement nourri de la manne sacrée des vieux maîtres, il baissa la tête d'un air consterné et répondit au comte. « Prenez-la donc, cette âme sans tache, cette intelligence sans souillure, jetez-la aux chiens et livrez-la aux bêtes, puisque telle est la destinée du génie au temps où nous sommes. » Cette douleur, à la fois sérieuse et comique, donna au comte une idée du mérite de l'élève, par le prix qu'un maître si rigide y attachait. « Et quoi, mon cher maestro ? » s'écria-t-il. « Est-ce là en effet votre opinion ? La Consuelo est-elle un être aussi extraordinaire, aussi divin ?»« Vous l'entendrez, » dit le Porpora d'un air résigné, et il répéta « C'est sa destinée !» Cependant, le comte vint à bout de relever les esprits abattus du maître en lui faisant espérer une réforme sérieuse dans le choix des opéras qu'il mettrait au répertoire de son théâtre. Il lui promit l'exclusion des mauvais ouvrages, aussitôt qu'il aurait expulsé la Corilla, sur le caprice de laquelle il rejeta leur admission et leur succès. Il fit même entendre adroitement qu'il serait très sobre de Haas, et déclara que si le Porpora voulait écrire un opéra pour Consuelo, le jour où l'élève couvrirait son maître d'une double gloire en exprimant sa pensée dans le style qui lui convenait, ce jour serait celui du triomphe lyrique de San Samuel et le plus beau de la vie du comte. Le Porpora, vaincu, commença donc à se radoucir et à désirer secrètement le début de son élève autant qu'il l'avait redouté jusque-là, craignant de donner avec elle une nouvelle vogue aux ouvrages de son rival. Mais comme le comte lui exprimait ses inquiétudes sur la figure de Consuelo, il refusa de la lui faire entendre en particulier et à l'improviste. « Je ne vous dirai point, » répondit-il à ses questions et à ses instances, « que ce soit une beauté, une fille aussi pauvrement vêtue et timide comme doit l'être, en présence d'un seigneur et d'un juge de votre sorte, un enfant du peuple qui n'a jamais été l'objet de la moindre attention, ne saurait se passer d'un peu de toilette et de préparation. Et puis, la Consuelo est de celle que l'expression du génie rehausse extraordinairement. Il faut la voir et l'entendre en même temps. Laissez-moi faire. Si vous n'en êtes pas content, vous me la laisserez. Et je trouverai bien moyen d'en faire une bonne religieuse, qui fera la gloire de l'école en formant des élèves sous sa direction. » Tel était en effet l'avenir que jusque-là le Porpora avait rêvé pour Consuelo. Quand il revit son élève, il lui annonça qu'elle aurait à être entendue et jugée par le comte. Mais comme elle lui exprima naïvement sa crainte d'être trouvée laide, il lui fit croire qu'elle ne serait point vue et qu'elle chanterait derrière la tribune grillée de l'orgue, le comte assistant à l'office dans l'église. Seulement, il lui recommanda de s'habiller décemment, parce qu'elle aurait à être présentée ensuite à ce seigneur. Et bien qu'elle fût pauvre aussi, le noble maître, il lui donna quelque argent à cet effet. Consuelo, tout interdite, tout agitée, occupée pour la première fois du soin de sa personne, prépara donc à la hâte sa toilette et sa voix. Elle essaya vite la dernière, et la trouvant si fraîche, si forte, si souple, elle répéta plus d'une fois à Anzoletto, qui l'écoutait avec émotion et ravissement. « Hélas, pourquoi faut-il donc quelque chose de plus à une cantatrice que de savoir chanter ?» Chapitre 10. La veille du jour solennel, Anzoletto trouva la porte de Consuelo fermée au verrou, et, après qu'il eut attendu presque un quart d'heure sur l'escalier, il fut admis enfin à voir son amie revêtue de sa toilette de fête, dont elle avait voulu faire l'épreuve devant lui. Elle avait une jolie robe de toile de Perse à grandes fleurs, un fichu de dentelle et de la poudre. Elle était si changée ainsi qu'Anzoletto resta quelques instants incertain, ne sachant si elle avait gagné ou perdu à cette transformation. L'irrésolution que Consuelo lut dans ses yeux fut pour elle un coup de poignard. « Ah, tiens ! » s'écria-t-elle, « je vois bien que je ne te plais pas ainsi. À qui donc semblerais-je supportable si celui qui m'aime n'éprouve rien d'agréable en me regardant ? » ?»« Attends donc un peu !» répondit Anzoletto. « D'abord, je suis frappée de ta belle taille dans ce long corsage et de ton air distingué sous ces dentelles. Tu portes à merveille les larges plis de ta jupe. Mais je regrette tes cheveux noirs. Du moins, je le crois. Mais c'est la tenue du peuple et il faut que tu sois demain une signora. Et pourquoi faut-il que je sois une signora ? Moi, je hais cette poudre qui affadit et qui vieillit les plus belles. J'ai l'air emprunté sous ces falbas-là. En un mot, je me déplais ainsi, et je vois que tu es de mon avis. Tiens, j'ai été ce matin à la répétition, et j'ai vu la Clorinda, qui essayait aussi une robe neuve. Elle était si pimpante, si brave, si belle. Oh, celle-là est heureuse, et il ne faut pas la regarder deux fois pour s'assurer de sa beauté. Que je me sens effrayée de paraître à côté d'elle devant le comte. Sois tranquille, le comte l'a vue, mais il l'a entendue aussi. Et elle a mal chanté ? Comme elle chante toujours. Ah, mon ami, ces rivalités gâtent le cœur. Il y a quelque temps, si la Clorinda, qui est une bonne fille malgré sa vanité, eût fait fiasco devant un juge, je l'aurais plainte du fond de mon âme. J'aurais partagé sa peine et son humiliation. Et voilà qu'aujourd'hui je me surprends à m'en réjouir. Lutter, envier, chercher à se détruire mutuellement. Et tout cela pour un homme qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas. Je me sens affreusement triste, mon cher amour, et il me semble que je suis aussi effrayée de l'idée de réussir que de celle d'échouer. Il me semble que notre bonheur prend fin, et que demain, après l'épreuve, quelle qu'elle soit, je rentrerai dans cette pauvre chambre tout autre que je n'y ai vécu jusqu'à présent. » Deux grosses larmes roulèrent sur les joues de Consuelo. « Eh bien, tu vas pleurer à présent ? » s'écria Anzoletto. « Y songes-tu ? Tu vas ternir tes yeux et gonfler tes paupières. » « Tes yeux, Consuelo, ne va pas gâter tes yeux, qui sont ce que tu as de plus beau. » « Ou de moins laid, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Allons, quand on se donne au monde, on n'a même pas le droit de pleurer. » Son amie s'efforça de la consoler, mais elle fut amèrement triste tout le reste du jour. Et le soir, lorsqu'elle se retrouva seule, elle ôta soigneusement sa poudre, décrépa et lissa ses beaux cheveux d'ébène, essaya une petite robe de soie noire, encore fraîche, qu'elle mettait ordinairement le dimanche, et reprit confiance en elle-même, en se retrouvant devant sa glace, telle qu'elle se connaissait. Puis elle fit sa prière avec ferveur, songea à sa mère, s'attendrit et s'endormit en pleurant. Lorsqu'Anzoletto vint la chercher le lendemain pour la conduire à l'église, il la trouva à son épinette, habillée et peignée comme tous les dimanches, et repassant son morceau d'épreuve.
« Et quoi ? » s'écria-t-il. « Pas encore coiffée ? Pas encore parée ? L'heure approche ! À quoi songes-tu, Consuelo ?»«
Mon ami, » répondit-elle avec résolution, « je suis parée, je suis coiffée, je suis tranquille. Je veux rester ainsi. Ces belles robes ne me vont pas. Mes cheveux noirs te plaisent mieux que la poudre. Ce corsage ne gêne pas ma respiration. Ne me contredis pas. Mon parti est pris. J'ai demandé à Dieu de m'inspirer et à ma mère de veiller sur ma conduite. Dieu m'a inspiré d'être modeste et simple. Ma mère est venue me voir en rêve, et elle m'a dit ce qu'elle me disait toujours. « Occupe-toi de bien chanter, la Providence fera le reste. » Je l'ai vue, qui prenait ma belle robe, mes dentelles et mes rubans, et qui les rangeait dans l'armoire. Après quoi, elle a placé ma robe noire et ma mantille de mousseline blanche sur la chaise à côté de mon lit. Aussitôt que j'ai été éveillée, j'ai serré la toilette comme elle l'avait fait dans mon rêve, et j'ai mis la robe noire et la mantille. Me voilà prête. Je me sens du courage, depuis que j'ai renoncé à plaire par des moyens dont je ne sais pas me servir. Tiens, écoute ma voix. Tout est là, vois-tu ? Elle fit un trait.
« Juste ciel, nous sommes perdus !» s'écria Anzoletto. « Ta voix est voilée et tes yeux sont rouges. Tu as pleuré hier soir, Consuelo. Voilà une belle affaire. Je te dis que nous sommes perdus, que tu es folle avec ton caprice de t'habiller de deuil un jour de fête. Cela porte malheur et cela t'enlaidit. Et vite, reprends ta belle robe pendant que j'irai t'acheter du rouge. Tu es pâle comme un spectre. »
Une discussion assez vive s'éleva entre eux à ce sujet. Anzoletto fut un peu brutal. Le chagrin rentra dans l'âme de la pauvre fille. Ses larmes coulèrent encore. Anzoletto s'en irrita davantage et, au milieu du débat, l'heure sonna. L'heure fatale. Le quart avant 2 heures. Juste le temps de courir à l'église et d'y arriver en s'essoufflant. Anzoletto maudit le ciel par un jurement énergique. Consuelo, plus pâle et plus tremblante que l'étoile du matin qui se mire au sein des lagunes, se regarda une dernière fois dans sa petite glace brisée. Puis, se retournant, elle se jeta impétueusement dans les bras d'Anzoletto.
« Oh, mon ami !» s'écria-t-elle. « Ne me gronde pas, ne me maudis pas. Embrasse-moi bien fort, au contraire, pour ôter à mes joues cette pâleur livide. » Que ton baiser soit comme le feu de l'autel sur les lèvres d'Isaïe, et que Dieu ne nous punisse pas d'avoir douté de son secours. »
Alors elle jeta vivement sa mantille sur sa tête, prit ses cahiers, et entraînant son amant consterné, elle courut au Mendicanti, où déjà la foule était rassemblée pour entendre la belle musique du Porpora. Anzoletto, plus mort que vif, alla joindre le comte, qui lui avait donné rendez-vous dans sa tribune. Et Consuelo monta à celle de l'orgue, où les chœurs étaient déjà en rang de bataille, et le professeur devant son pupitre. Consuelo ignorait que la tribune du comte était située de manière à ce qu'il vît beaucoup moins dans l'église que dans la tribune de l'orgue, que déjà il avait les yeux sur elle, et qu'il ne perdait pas un de ses mouvements. Mais il ne pouvait pas encore distinguer ses traits, car elle s'agenouilla en arrivant, cacha sa tête dans ses mains et se mit à prier avec une dévotion ardente. « Mon Dieu, » disait-elle du fond de son cœur, « tu sais que je ne te demande point de m'élever au-dessus de mes rivales pour les abaisser. Tu sais que je ne veux pas me donner au monde et aux arts profanes pour abandonner ton amour et m'égarer dans les sentiers du vice. Tu sais que l'orgueil n'enfle pas mon âme, et que c'est pour vivre avec celui que ma mère m'a permis d'aimer, pour ne m'en séparer jamais, pour assurer sa joie et son bonheur, que je te demande de me soutenir et d'ennoblir mon accent et ma pensée quand je chanterai tes louanges. » Lorsque les premiers accords de l'orchestre appelèrent Consuelo à sa place, elle se releva lentement. Sa mantille tomba sur ses épaules et son visage apparut enfin aux spectateurs inquiets et impatients de la tribune voisine. Mais quelle miraculeuse transformation s'était opérée dans cette jeune fille, tout à l'heure si blême et si abattue, si effarée par la fatigue et la crainte. Son large front semblait nager dans un fluide céleste. Une molle langueur baignait encore les plans doux et nobles de sa figure sereine et généreuse. Son regard calme n'exprimait aucune de ces petites passions qui cherchent et convoitent les succès ordinaires. Il y avait en elle quelque chose de grave, de mystérieux et de profond qui commandait le respect et l'attendrissement. « Courage, ma fille !» lui dit le professeur à voix basse. « Tu vas chanter la musique d'un grand maître, et ce maître est là, qui t'écoute. » « Qui ? Marcello ?» dit Consuelo, voyant le professeur déplier les psaumes de Marcello sur le pupitre. « Oui, Marcello !» répondit le professeur. « Chante comme à l'ordinaire, rien de plus, rien de moins, et ce sera bien. » En effet, Marcello, alors dans la dernière année de sa vie, était venu revoir une dernière fois Venise, sa patrie, dont il faisait la gloire comme compositeur, comme écrivain et comme magistrat. Il avait été plein de courtoisie pour le Porpora, qu'il avait prié d'entendre son école, lui ménageant la surprise de faire chanter d'abord par Consuelo, qui le possédait parfaitement, son magnifique psaume « I cieli immensi narrano ». Aucun morceau n'était mieux approprié à l'espèce d'exaltation religieuse où se trouvait en ce moment l'âme de cette noble fille. Aussitôt que les premières paroles de ce chant large et franc brillèrent devant ses yeux, elle se sentit transportée dans un autre monde. Oubliant le comte Giustiniani, les regards malveillants de ses rivales, et jusqu'à Anzoletto, elle ne songea qu'à Dieu et à Marcello, qui se plaçait dans sa pensée comme un interprète entre elle et ces cieux splendides dont elle avait à célébrer la gloire. Quel plus beau thème, en effet, et quelle plus grande idée! « I cieli immensi narrano, del grande idio la gloria, il firmamento lucido, all'universo annuncia, quanto sieno mirabili, della sua destra le opere. » Un feu divin monta à ses joues, et la flamme sacrée jaillit de ses grands yeux noirs, lorsqu'elle remplit la voûte de cette voix sans égale et de cet accent victorieux, pur, vraiment grandiose, qui ne peut sortir que d'une grande intelligence, jointe à un grand cœur. Au bout de quelques mesures d'audition, un torrent de larmes délicieuses s'échappa des yeux de Marcello. Le comte, ne pouvant maîtriser son émotion, s'écria : Par tout le sang du Christ, cette femme est belle! Cette sainte Cécile, sainte Thérèse, sainte Consuelo! C'est la poésie, c'est la musique, c'est la foi personnifiée! Quant à Anzoletto, qui s'était levé et qui ne se soutenait plus sur ses jambes fléchissantes que grâce à ses mains crispées sur la grille de la tribune, il retomba suffoqué sur son siège, prêt à s'évanouir et comme ivre de joie et d'orgueil. Il fallut tout le respect dû au lieu saint pour que les nombreux dilettanti et la foule qui remplissait l'église n'éclatassent point en applaudissements frénétiques, comme s'ils eussent été au théâtre. Le comte n'eut pas la patience d'attendre la fin des offices pour passer à l'orgue, et pour exprimer son enthousiasme au Porpora et à Consuelo. Il fallut que pendant la psalmodie des officiants, elle alla recevoir, dans la tribune du comte, les éloges et les remerciements de Marcello. Elle le trouva encore si ému qu'il pouvait à peine lui parler. « Ma fille, lui dit-il d'une voix entrecoupée, reçois les actions de grâce et les bénédictions d'un mourant. Tu viens de me faire oublier en un instant des années de souffrance mortelle. Il me semble qu'un miracle s'est opéré en moi et que ce mal incessant et épouvantable s'est dissipé pour toujours au son de ta voix. Si les anges de là-haut chantent comme toi, j'aspire à quitter la terre pour aller goûter une éternité des délices que tu viens de me faire connaître. Sois donc béni, enfant, et que ton bonheur en ce monde réponde à tes mérites. J'ai entendu la Faustina, la Romanina, la Cuzzoni, toutes les plus grandes cantatrices de l'univers. Elles ne te vont pas à la cheville. Il t'est réservé de faire entendre au monde ce que le monde n'a jamais entendu, et de lui faire sentir ce que nul homme n'a jamais senti. La Consuelo, anéantie, et comme brisée sous cet éloge magnifique, courba la tête, mit presque un genou en terre, et sans pouvoir dire un mot, porta à ses lèvres la main livide de l'illustre moribond. Mais en se relevant, elle laissa tomber sur Anzoletto un regard qui semblait lui dire « Ingrat, tu ne m'avais pas deviné !» Chapitre 11. Durant le reste de l'office, Consuelo déploya une énergie et des ressources qui répondirent à toutes les objections qu'eût pu faire encore le comte Giustiniani. Elle conduisit, soutint et anima les cœurs, faisant tour à tour chaque partie et montrant ainsi l'étendue prodigieuse et les qualités diverses de sa voix. Plus la force inépuisable de ses poumons, ou pour mieux dire, la perfection de sa science. Car qui sait chanter ne se fatigue pas, et Consuelo chantait avec aussi peu d'effort et de travail que les autres respirent. On entendait le timbre clair et plein de sa voix par-dessus les 100 voix de ses compagnes. Non qu'elle criât, comme font les chanteurs sans âme et sans souffle, mais parce que son timbre était d'une pureté irréprochable et son accent d'une netteté parfaite. En outre, elle sentait et elle comprenait jusqu'à la moindre intention de la musique qu'elle exprimait. Elle seule, en un mot, était une musicienne et un maître au milieu de ce troupeau d'intelligence vulgaire, de voix fraîche et de volonté molle. Elle remplissait donc instinctivement et sans ostentation son rôle de puissance. Et tant que les chants durèrent, elle imposa naturellement sa domination qu'on sentait nécessaire. Après qu'ils eurent cessé, les choristes lui en firent intérieurement un grief et un crime. Et elle, qui, en se sentant faiblir, l'avait interrogé et comme imploré du regard, s'attribua tous les éloges qui furent donnés en masse à l'école du Porpora. À ces éloges, le maître souriait sans rien dire, mais il regardait Consuelo, et Anzoletto comprenait fort bien. Après le salut et la bénédiction, les choristes prirent part à une collation friande que leur fit servir le comte dans un des parloirs du couvent. La grille séparait deux grandes tables en forme de demi-lune, mises en regard l'une de l'autre. Une ouverture, mesurée sur la dimension d'un immense pâté, était ménagée au centre du grillage pour faire passer les plats que le comte présentait lui-même avec grâce aux principales religieuses et aux élèves. Celles-ci, vêtues en béguines, venaient par douzaines s'asseoir alternativement aux places vacantes dans l'intérieur du cloître. La supérieure, assise tout près de la grille, se trouvait ainsi à la droite du comte, placée dans la salle extérieure. Mais à la gauche de Giustiniani, une place restait vacante. Marcello, Porpora, le curé de la paroisse, les principaux prêtres qui avaient officié à la cérémonie, quelques patriciens dilettanti et administrateurs laïcs de la scuola. Enfin, le bel Anzoletto, avec son habit noir et l'épée au côté, remplissait la table des séculiers. Les jeunes chanteuses étaient fort animées ordinairement en pareille occasion. Le plaisir de la gourmandise, celui de converser avec des hommes, l'envie de plaire ou d'être tout au moins remarquée, leur donnait beaucoup de babil et de vivacité. Mais ce jour-là, le goûter fut triste et contraint. C'est que le projet du comte avait transpiré. Quel secret peut tourner autour d'un couvent sans s'y infiltrer par quelque fente? Et que chacune de ces jeunes filles s'était flattée en secret d'être présentée par le Porpora pour succéder à la Corilla. Le professeur avait eu même la malice d'encourager les illusions de quelques-unes, soit pour les disposer à mieux chanter sa musique devant Marcello, soit pour se venger, pour leur dépit futur, de tout celui qu'elle lui causait aux leçons. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Clorinda, qui n'était qu'externe à ce conservatoire, avait fait grande toilette pour ce jour-là et s'attendait à prendre place à la droite du comte. Mais quand elle vit cette guenille de Consuelo, avec sa petite robe noire et son air tranquille, cette laideron qu'elle affectait de mépriser, réputée désormais la seule musicienne et la seule beauté de l'école, s'asseoir entre le comte et Marcello, elle devint laide de colère, laide comme Consuelo ne l'avait jamais été, comme le deviendrait Vénus en personne, agitée par un sentiment bas et méchant. Anzoletto l'examinait attentivement, et, triomphant de sa victoire, il s'assit auprès d'elle et l'accabla de fadeurs railleuses qu'elle n'eut pas l'esprit de comprendre et qui la consolèrent bientôt. Elle s'imagina qu'elle se vengeait de sa rivale en fixant l'attention de son fiancé, et elle n'épargna rien pour l'enivrer de ses charmes. Mais elle était trop bornée, et l'amant de Consuelo avait trop de finesse pour que cette lutte inégale ne la couvrît pas de ridicule. Cependant, le comte Giustiniani, en causant avec Consuelo, s'émerveillait de lui trouver autant de tact, de bon sens et de charme dans la conversation, qu'il lui avait trouvé de talent et de puissance à l'église. Quoiqu'elle fût absolument dépourvue de coquetterie, elle avait dans ses manières une franchise enjouée et une bonhomie confiante qui inspirait je ne sais quelle sympathie soudaine, irrésistible. Quand le goûter fut fini, il l'engagea à venir prendre le frais du soir dans sa gondole avec ses amis. Marcello en fut dispensé à cause du mauvais état de sa santé. Mais le Porpora, le comte Barberigo et plusieurs autres patriciens acceptèrent. Anzoletto fut admis. Consuelo, qui se sentait un peu troublé d'être seul avec tant d'hommes, pria tout bas le comte de vouloir bien inviter la Clorinda. Et Giustiniani, qui ne comprenait pas le badinage d'Anzoletto avec cette pauvre fille, ne fut pas fâché de le voir occupé d'une autre que de sa fiancée. Ce noble comte, grâce à la légèreté de son caractère, grâce à sa belle figure, à son opulence, à son théâtre, et aussi aux mœurs faciles du pays et de l'époque, ne manquait pas d'une bonne dose de fatuité. Animé par le vin de graisse et l'enthousiasme musical, impatient de se venger de sa perfide Corilla, il n'imagina rien de plus naturel que de faire la cour à Consuelo. Et, s'asseyant près d'elle dans la gondole, tandis qu'il avait arrangé chacun de manière à ce que l'autre couple de jeunes gens se trouvât à l'extrémité opposée, il commença à couver du regard sa nouvelle proie d'une façon fort significative. La bonne Consuelo n'y comprit pourtant rien du tout. Sa candeur et sa loyauté se seraient refusées à supposer que le protecteur de son ami pût avoir de si méchants desseins. Mais sa modestie habituelle, que n'altérait en rien le triomphe éclatant de la journée, ne lui permit pas même de croire de tels desseins possibles. Elle s'obstina à respecter dans son cœur le seigneur illustre qu'il adoptait avec Anzoletto, et à s'amuser ingénument d'une partie de plaisir où elle n'entendait pas malice. Tant de calme et de bonne foi surprirent le comte, au point qu'il resta incertain si c'était l'abandon joyeux d'une âme sans résistance ou la stupidité d'une innocence parfaite. À 18 ans, cependant, une fille en sait bien long, en Italie, je veux dire, en savait, il y a 100 ans surtout, avec un ami comme Anzoletto. Toute vraisemblance était donc en faveur des espérances du comte. Et cependant, chaque fois qu'il prenait la main de sa protégée, ou qu'il avançait un bras pour entourer sa taille, une crainte indéfinissable l'arrêtait aussitôt, et il éprouvait un sentiment d'incertitude et presque de respect dont il ne pouvait se rendre compte. Barberigo trouvait aussi la Consuelo fort séduisante dans sa simplicité, et il eût volontiers élevé des prétentions du même genre que celles du comte, s'il n'eût cru fort délicat de sa part de ne pas contrarier les projets de son ami. « À tout seigneur, tout honneur !» se disait-il en voyant nager les yeux de Giustiniani dans une atmosphère d'enivrement voluptueux. « Mon tour viendra plus tard. » En attendant, comme le jeune Barberigo n'était pas trop habitué à contempler les étoiles dans une promenade avec des femmes, il se demanda de quel droit ce petit drôle d'Anzoletto accaparait la blonde Clorinda. Et, se rapprochant d'elle, il essaya de faire comprendre au jeune ténor que son rôle serait plutôt de prendre la rame que de courtiser la donzelle. Anzoletto n'était pas assez bien élevé, malgré sa pénétration merveilleuse, pour comprendre au premier mot. D'ailleurs, il était d'un orgueil voisin de l'insolence avec les patriciens. Il les détestait cordialement, et sa souplesse avec eux n'était qu'une fourberie pleine de mépris intérieur. Barberigo, voyant qu'il se faisait un plaisir de le contrarier, s'avisa d'une vengeance cruelle. « Parbleu !» dit-il bien haut à la Clorinda. « Voyez donc le succès de votre ami Consuelo. Où s'arrêtera-t-elle aujourd'hui ? Non contente de faire fureur dans toute la ville par la beauté de son chant, la voilà qui fait tourner la tête à notre pauvre comte par le feu de ses œillades. Il en deviendra fou, s'il ne l'est déjà, et voilà les affaires de Madame Corilla, tout à fait gâtées. Oh, il n'y a rien à craindre, répliqua la Clorinda d'un air sournois. Consuelo est éprise d'Anzoletto, que voici, elle est sa fiancée. Ils brûlent l'un pour l'autre depuis je ne sais combien d'années. Je ne sais combien d'années d'amour peuvent être oubliées en un clin d'œil, reprit Barberigo, surtout quand les yeux de Giustiniani se mêlent de décocher le trait mortel. Ne le pensez-vous pas aussi, belle Clorinda? Anzoletto ne supporta pas longtemps ce persiflage. Mille serpents se glissaient déjà dans son cœur. Jusque-là, il n'avait eu ni soupçon ni souci de rien de pareil. Il s'était livré en aveugle à la joie de voir triompher son ami. Et c'était autant pour donner à son transport une contenance que pour goûter un raffinement de vanité qu'il s'amusait depuis 2 heures à railler la victime de cette journée enivrante. Après quelques quolibets échangés avec Barberigo, il feignit de prendre intérêt à la discussion musicale que le Porpora soutenait sur le milieu de la barque avec les autres promeneurs. Et, s'éloignant peu à peu d'une place qu'il n'avait plus envie de disputer, il se glissa dans l'ombre jusqu'à la proue. Dès le premier essai qu'il fit pour rompre le tête-à-tête du comte avec sa fiancée, il vit bien que Giustiniani goûtait fort peu cette diversion, car il lui répondit avec froideur et même avec sécheresse. Enfin, après plusieurs questions oiseuses mal accueillies, il lui fut conseillé d'aller écouter les choses profondes et savantes que le grand Porpora disait sur le contrepoint. « Le grand Porpora n'est pas mon maître, » répondit Anzoletto d'un ton badin qui dissimulait sa rage intérieure aussi bien que possible. « Il est celui de Consuelo, et s'il plaisait à votre chère et bien-aimée seigneurie, » ajouta-t-il tout bas en se courbant auprès du comte d'un air insinuant et caressant, « que ma pauvre Consuelo ne prit pas d'autres leçons que celles de son vieux professeur. »« Cher et bien-aimé Zotto, » répondit le comte d'un ton caressant, plein d'une malice profonde, « j'ai un mot à vous dire à l'oreille. » Et, se penchant vers lui, il ajouta, « votre fiancé a dû recevoir de vous des leçons de vertu qui la rendront invulnérable. » Mais si j'avais quelques prétentions à lui en donner d'autres, j'aurai le droit de l'essayer au moins pendant une soirée. »
Anzoletto se sentit froid de la tête aux pieds.
« Votre gracieuse seigneurie daignera-t-elle s'expliquer ? »
dit-il d'une voix étouffée.
« Ce sera bientôt fait, mon gracieux ami, » répondit le comte d'une voix claire. « Gondole pour gondole !»
Anzoletto fut terrifié en voyant que le comte avait découvert son tête-à-tête avec la corrille. Cette folle et audacieuse fille s'en était vantée à Giustiniani dans une terrible querelle fort violente qu'ils avaient eue ensemble. Le coupable essaya vainement de faire l'étonner.
« Allez donc écouter ce que dit le Porpora sur les principes de l'école napolitaine, » reprit le comte. « Vous viendrez me le répéter, cela m'intéresse beaucoup.
Je m'en aperçois, Excellence, » répondit Anzoletto, furieux et prêt à se perdre.
« Eh bien, tu n'y vas pas ?»
dit l'innocente Consuelo, étonnée de son hésitation.
« J'y vais, moi, seigneur comte, vous verrez que je suis votre servante. »
Et avant que le comte pût la retenir, elle avait franchi d'un bond léger la banquette qui la séparait de son vieux maître, et s'était assise sur ses talons à côté de lui. Le comte, voyant que ses affaires n'étaient pas fort avancées auprès d'elle, jugea nécessaire de dissimuler.
« Anzoletto, » dit-il en souriant et en tirant l'oreille de son protégé un peu fort. « Ici se bornera ma vengeance. » Elle n'a pas été aussi loin à beaucoup près que votre délit. Mais aussi, je ne fais pas de comparaison entre le plaisir d'entretenir honnêtement votre maîtresse un quart d'heure en présence de 10 personnes et celui que vous avez goûté tête à tête avec la mienne dans une gondole bien fermée.
« Seigneur comte !» s'écria Anzoletto, violemment agité. « Je proteste sur mon honneur. »«
Où est-il, votre honneur ?» reprit le comte. « Est-il dans votre oreille gauche ?»
Et en même temps, il menaçait cette malheureuse oreille d'une leçon pareille à celle que l'autre venait de recevoir.
« Accordez-vous donc assez peu de finesse à votre protégé, » dit Anzoletto, reprenant sa présence d'esprit, « pour ne pas savoir qu'il n'aurait jamais commis une pareille balourdise. »«
Commise ou non, » répondit sèchement le comte, « c'est la chose du monde la plus indifférente pour moi en ce moment. » Et il alla s'asseoir auprès de Consuelo.